enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Dans la première lettre de saint Paul, aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi, l'avorton. Car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide. Et vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu. Car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'aurait pas ressuscité s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire. Vous êtes encore dans vos péchés. Dès lors, même ceux qui sont endormis en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non. Christ est ressuscité des endormis. Prémisse de ceux qui sont endormis. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie, mais chacun à son rang. D'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait tout mis, tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira « Tout est soumis », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a tout soumis. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils de Dieu sera soumis à celui qui lui a tout soumis. Pour que Dieu soit tout en tous. On m'a demandé d'essayer d'aller à l'essentiel. Alors s'il y a bien un homme qui m'aide à aller dans l'essentiel, c'est saint Paul. Je crois que c'est vraiment un maître qui nous aide à rejoindre Jésus et à le mettre au centre de notre vie. Et puisqu'on s'approche de Pâques, j'avais envie de parler de la résurrection, juste comme ça. Alors Paul écrit ça, je crois qu'en le lisant simplement comme on vient de l'entendre, Paul écrit ce texte tout simplement parce que les Corinthiens ont du mal à croire que eux ressusciteront. Jésus ressuscité, ça leur va bien, ça pose pas de difficultés. Mais ils attendent le retour de Jésus, de manière assez immédiate dans le temps. Alors ils font, ben, comme nous tous, ils font le deuil, ils font l'expérience des premiers deuils. Il y en a parmi la communauté qui ferment les yeux et qui s'endorment dans la mort. C'est pas ça qu'ils attendaient. Ils attendaient que le Christ revienne. Et donc ils interrogent Paul en leur disant, mais qu'est-ce que c'est que notre espérance de la résurrection s'il y a déjà les premiers frères qui meurent? Et puis, ils sont comme nous, hein. Quand une grand-mère meurt, on pleure un peu à côté d'elle, un peu, beaucoup. Mais ils sont comme nous. Alors Paul leur écrit et leur dit, bah, écoutez, on va réfléchir ensemble et on va partir du point de départ. Le point de départ, c'est ce que je vous ai annoncé. Paul est le premier à avoir parlé de Jésus-Christ à Corinthe. C'était la règle qui se donnait quand il se déplaçait, c'était d'aller dans des villes où le Christ n'avait pas été annoncé. Donc il sait très bien ce que les Corinthiens ont entendu en tout premier, et il récite avec eux, on dirait le « je crois en Dieu », enfin voilà, le noyau, le point de départ. C'est tout simple. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, il est apparu à Pierre et aux 12. Voilà, ça c'est la plus vieille, peut-être, sûrement, la plus vieille profession de foi de l'Église. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux 12. Alors, on peut s'arrêter quelques instants et méditer sur cette phrase. Je crois que c'est bien qu'on puisse, dans notre prière, la faire tourner un peu dans notre cœur et la méditer. Christ est mort pour nos péchés. Voilà, c'est pas simple. La mort du Christ, c'est un fait. Mais c'est un fait que l'Esprit, à la lumière de la résurrection, nous permet déjà de méditer, d'interpréter. Et en disant « selon les Écritures », cette phrase que Paul a apprise peut nous faire penser, alors il y a tant de textes, mais ceux qu'on médite durant la Semaine Sainte, les poèmes d'Isaïe, c'est nos péchés qu'il portait, nous croyons qu'il était puni par Dieu, en fait c'est nos souffrances qu'il portait, nos péchés qu'il portait, et dans ses souffrances nous sommes guéris. Sur lui la sanction, sur nous la paix, on l'a compté au rang des pécheurs, Dieu lui rendra une descendance nombreuse. Voilà, tous ces poèmes, il y en a quantité de versets comme ça, tous ces poèmes d'Isaïe, la première communauté chrétienne les a lus comme un portrait de Jésus. Il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il fait partie du dessein de Dieu, il fait partie de la course de la parole de Dieu et donc du Fils de Dieu, de passer à travers la mort pour que cette parole soit reconnue comme parole de vie. Puis il est vraiment mort. On l'a mis au tombeau. La pierre, elle a fait son bruit définitif. Déjà à l'époque, il y en a qui disaient, ben oui, je vous dis que Jésus est ressuscité, mais c'est pas vrai en fait, c'est pas lui qui était mort, donc facile. Ah non, c'est lui qui est vraiment mort, on l'a mis au tombeau. Et aujourd'hui, dit le texte, vous pourriez aller voir la tombe, elle est vide. Ah oui, pourquoi? Jésus est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'est-ce qui atteste de cela? Il est apparu à Pierre et aux autres, et ils ont fait l'expérience. Alors Jésus est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La phrase est donc interprétée. Alors bien malin cette fois-ci pour aller chercher le verset de l'Écriture pendant lequel on nous dit que Dieu ressuscitera le troisième jour. Osée 6.2, je ne sais pas si tu le reconnais celui-là, enfin on en discute à l'infini, c'est pas grave. Le troisième jour, c'est le temps que Dieu attend pour intervenir. Dieu a relisé n'importe quelle histoire dans l'Écriture, les choses importantes se passent le troisième jour. Et comme ça. Alors, une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que 3 jours, ça fait 2 nuits. Une nuit blanche, c'est possible. 2 nuits blanches, on tient pas. Le troisième jour, c'est le temps où il était obligatoire, enfin, physiologiquement indispensable, de s'abandonner dans le sommeil. Dieu attend le troisième jour, qui est le temps qui nous est nécessaire, pour qu'on accepte enfin de s'abandonner entre ses mains et que ce soit lui qui soit à l'œuvre. Ressusciter le troisième jour, parce que c'est le jour où Dieu se met à l'œuvre. Ressusciter le troisième jour, selon les Écritures, il est apparu. Ils l'ont vu. Alors quand les apôtres disent qu'ils ont vu Jésus, et que Jésus est ressuscité, selon les Écritures, ils disent pas « on a vu un cadavre réanimé ». Ça, c'est Lazare. L'histoire de Lazare, elle est jolie, mais au caté, des fois, les gamins, ils posent la question et disent « et Lazare, après, il est remort ?» Ouais, Lazare, il est remort. Mais Jésus, non. C'est pas pareil. Donc, parler de résurrection, c'est pas parler de la réanimation d'un corps. C'est parler d'une transfiguration. On parlait déjà de résurrection au temps des apôtres. On parlait d'un événement. Dieu allait intervenir le troisième jour. Pour faire quoi? Pour ressusciter tout le monde. Et ce serait la fin des temps. Ce serait l'entrée de tous dans sa gloire et dans son amour. Alors il y a des scénarios variés, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce qu'il va ressusciter que les justes et puis les injustes, il va les laisser dormir pour l'éternité? Ça, c'est la solution 1. La solution 2, c'est qu'il va ressusciter tout le monde et que les justes vont rentrer dans la gloire et dans la lumière. Et les injustes, c'est dans les ténèbres et je ne sais pas où. Enfin bref, on en discutait à l'époque. Ce que disent les apôtres, c'est quelque chose de nouveau, qu'on n'avait jamais dit avant, et qu'on n'a jamais dit depuis d'un autre homme. Je dis pas que c'est une preuve de la vérité, je dis qu'il y a quelque chose de singulier, qu'on n'a jamais dit avant, et qu'on n'a pas redit depuis d'un autre homme. Ils disent, avec lui on a vécu le troisième jour. Quand il est apparu, ressuscité, au monde ils ont eu du mal à le reconnaître, mais après avoir fait ce chemin de reconnaissance, ils ont vécu le troisième jour. Ils ont vécu ce moment, ce geste par lequel Dieu, à la fin des temps, ressuscitera tout le monde pour faire rentrer tout le monde dans sa lumière. En Jésus, dans son corps, il y avait déjà cette force de vie et qui, comme parce qu'on était à côté de lui, tenu dans sa main, elle nous traversait également et nous pouvions commencer déjà à être des ressuscités. Pas des survivants, des ressuscités. Alors voilà. Voilà ce que c'est que croire en la résurrection de Jésus tel que Paul l'a vécu, tel qu'on lui a appris cette phrase quand il est allé à Damas, vraisemblablement Ananie qui lui a apprise. Et voilà ce qu'il a annoncé. Dire que Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est avoir fait cette expérience d'une vie qui nous est donnée. D'en avoir fait l'expérience, il va nous aider à essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Alors il raconte toute une autre série, avant de ça, il raconte toute une autre série de témoins, parlant aussi d'une apparition de Jésus dont on nous fait pas le récit dans les évangiles à 500 frères à la fois. Et il ajoute, certains sont morts et d'autres sont toujours vivants. Ce qui l'intéresse, c'est pas que les autres certains soient déjà vivants pour en témoigner, c'est que certains sont déjà morts. Des gens qui ont vécu l'expérience d'avoir vu Jésus ressuscité sont déjà morts. Donc vous étonnez pas, nous dit Paul. La foi en Jésus ressuscité ne nous dispense pas de ce moment qu'on appelle la mort. Enfin, il écrira un petit peu plus tard aux Corinthiens, si ça pouvait m'être évité, je suis preneur. Hein, il prend l'image du vêtement et il dit, il faut que le vêtement éternel vienne engloutir le vêtement mortel. Mais j'aimerais pas avoir retiré le mortel d'abord. Je me retrouverais tout nu et j'aime pas ça. Alors il continue sa réflexion et il se dit, voilà, on est bien d'accord, Jésus est ressuscité d'entre les morts. On va faire un raisonnement par l'absurde. Si les morts ne ressuscitent pas, alors Jésus n'est pas ressuscité. Puisque justement l'expérience de la résurrection de Jésus, c'est de découvrir tout d'un coup que notre vie est une promesse de vie éternelle. Croire que Jésus est ressuscité, Paul le dit dans la deuxième aux Corinthiens, c'est de croire que Dieu a dit oui à toutes ses promesses. Et que du coup notre vie, par elle-même, devient une promesse de vie éternelle. Donc si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Pour Paul, c'est la même chose. C'est pas une chose puis une autre, c'est la même chose. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. Alors c'est là où Paul nous appelle vraiment à aller à l'essentiel et à le revivre. Il nous invite à regarder en arrière dans notre histoire, à nous rappeler les moments où l'Évangile a résonné comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire quelque chose de bon et de nouveau. Il nous invite à repasser les quelques rencontres. Ça peut être un ami, ça peut être en lisant une page de l'Écriture, ça peut être un chant, ça peut être un prêtre ou un pasteur. Peu importe, il y a eu un moment, plusieurs fois dans notre vie, où ces mots un peu usés qu'on se répète depuis des générations, on dit quelque chose qui nous a fait du bien, et c'était nouveau, parce que ça ouvrait l'avenir et l'espérance. Je crois que c'est important de savoir dire 2-3 points dans notre histoire. Alors il y a un truc pour être capable de le faire, c'est qu'il faut avoir son journal. Il ne s'agit pas de faire des lettres et de faire des trucs qui seront publiés dans 150 ans. Non. Il faut avoir son journal dans lequel on écrit de temps en temps une phrase. Aujourd'hui, j'ai entendu telle phrase. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Puis c'est tout. Puis pas forcément tous les jours où ça arrive. Mais ça aide à pouvoir, de temps en temps, relire son histoire et se dire, à tel moment, j'ai découvert tel aspect de l'amour de Dieu. À tel moment, j'ai découvert tel aspect de l'espérance que Dieu nous donne. Parce que ça grandit, ça mûrit. Et si le Christ n'est pas ressuscité des morts, notre prédication est vide, et vide aussi notre foi. Et donc Paul nous invite à aller chercher dans cette histoire ces moments pour pouvoir nous appuyer dessus et pouvoir dire, mais oui, j'ai fait, ça c'était l'expérience de la résurrection de Jésus. Ça c'était la même expérience que Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs, Thomas, ou je ne sais pas quel apôtre, disciple de Jésus, c'était la même expérience que lui quand il a vu Jésus ressuscité. Et ça, c'est une promesse de vie éternelle pour nous. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car sinon nous aurions porté un contre-témoignage en disant que Dieu n'a ressuscité le Christ. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore dans vos péchés. Alors un autre aspect que Paul nous invite à aller chercher, toujours avec ce même raisonnement par l'absurde, une fois qu'on a accepté de raisonner comme ça, ce qui n'est pas toujours habituel dans la Bible, j'en conviens, une fois qu'on a accepté de se laisser conduire pendant ce paragraphe par ce raisonnement par l'absurde, on arrive au résultat. Et le résultat, c'est de se dire, ma foi, alors elle n'est pas vaine, la rencontre avec le Christ, c'est une parole qui a ouvert un avenir et une espérance, mais aussi, elle m'a libéré du péché. Alors pour Paul, il l'avait eu de manière extrêmement simple, extrêmement concrète. Il le dit dans la lettre aux Galates, quand il a rencontré Jésus ressuscité, il ne dit pas « j'ai rencontré Jésus ressuscité ». Luc le raconte comme ça, mais lui, il dit pas ça comme ça. Il dit « le Père », enfin il dit pas « le Père », mais il prend une autre périphrase, « a révélé le Fils en moi ». Il en parle comme une expérience intérieure. Et alors, quand je regarde un peu comment Paul parle de lui, quand il fait sa fiche d'identité, il est fils d'Abraham, fils de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pharisien, fils de pharisien. Bref, il a un héritage un peu lourd sur les épaules, à tel point que ça se traduit par la violence de la persécution. C'est un héritage qu'il n'arrive pas à assumer. Eh bien, la rencontre avec Jésus ressuscité, c'est la révélation d'une vie filiale. Tout d'un coup, c'est une libération de ses péchés, de son péché. C'est une libération de cette force qui l'empêche d'être fils du Père. Et pour Paul, il n'y a rien de plus important que de pouvoir vivre comme fils sous le regard de Dieu le Père. Et après ça, tout est possible. Il le dit dans la première aux Corinthiens, que chacun garde sa situation dans laquelle il a été appelé et respecte les commandements de Dieu. Quand même, tout n'est pas possible. Mais peu importe ce que nous faisons, l'important, c'est que nous puissions le vivre comme fils et comme fille sous le regard du Père. C'est ça la libération du péché, parce que le péché, c'est ce qui nous empêche de dire à Dieu Père, tout simplement. Alors, nous sommes appelés à vivre cette expérience de la rencontre avec Jésus, de la méditation de la parole de Dieu, comme une expérience qui nous ouvre ce chemin et cet avenir, qui fait que la vie est une promesse de vie éternelle, et qu'elle vaut la peine d'être vécue comme fils, sous le regard du Père. Voilà pourquoi Paul raisonne par l'absurde, là, dans ses versets 12 à 19 de ce chapitre, pour nous inviter à revenir sur les traces de la présence de Dieu dans nos vies. Dans la Bible, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on voit, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Alors, ça c'est dans les prophètes. Le Nouveau Testament a tendance à renverser le propos en disant, ben, quand on mourra, on verra Dieu. Mais, nul ne peut voir aujourd'hui dans notre corps fini l'infini de l'être de Dieu et de sa sainteté. Alors il y a un texte absolument délicieux dans le livre de l'Exode au chapitre 32 où Moïse insiste et dit « Si je suis ton prophète préféré, je veux te voir. » Et la négociation est sévère, pied à pied. « Non, tu ne me verras pas, je veux te voir. » Alors il y a une transaction. Dieu dit à Moïse « Tu vas te cacher dans le rocher. Je vais mettre ma main, je vais passer devant le rocher pour pas que tu me vois face à face, parce que sinon tu mourrais. » Et puis quand je serai passé, je retirerai ma main et tu pourras me voir de dos. C'est une fantastique leçon pour savoir reconnaître la présence de Dieu. On voit pas Dieu de face, on voit les traces de son passage dans nos vies. Voilà pourquoi c'est important d'écrire. D'ailleurs, juste à ce moment-là, Moïse monte sur la montagne et écrit les 10 commandements. Enfin, les réécrit, c'est une deuxième fois. Voilà pourquoi c'est important d'écrire. Conserver la trace. Hein, sur une carte, quand on balise un itinéraire, on met une croix rouge en disant « Oui, le croisement, il était là, faut pas qu'on le loupe la prochaine fois. » Tenir son journal, c'est ça. C'est dire « Là, il y a eu un croisement. » Puis peut-être qu'on n'aura plus besoin d'y revenir. On connaîtra la route, puis peut-être qu'on aura besoin d'y revenir. Paul nous invite à faire ça. Réfléchissez. Regardez, votre voie n'est pas vaine. Et retournez en arrière. Il y a une expérience de libération. Retrouvez les étapes de votre histoire avec le Christ. Et puis il termine, si nous avons mis notre espérance pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Les Corinthiens, ils trouvaient très très bien leur vie religieuse. Ça leur convenait bien. Pouvoir faire des miracles, pouvoir chanter en langue, tout ça, c'était super. Et Jésus leur dit, oui, mais ça, c'est les arts. Et Paul était d'une famille commerçante. Donc, entre les arts et les acomptes, on lui fait, voilà, hein, il connaît la différence. On a reçu les arts, promesse d'avoir plus. Mais les arts, c'est pas tout. C'est juste une partie. Et donc, cette expérience que nous avons faite et à laquelle Paul nous invite à nommer, à faire un exercice, eh ben, ça n'est que les arts. Et alors il dit la même chose. Mais non, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. Enfin, c'est mal traduit, puis comme je lis rapidement, j'ai pas modifié. Prémisse de ceux qui sont endormis. On va y revenir. Mais déjà, le Christ, Jésus, est présenté comme les prémices. Alors, dans la fête de Pâques, c'est un détail qu'on connaît pas très bien parce qu'il est peu utilisé dans la symbolique, sauf à cet endroit-là. Il y a la fête de Pâques, il y a l'agneau immolé, il y a les pains sans levain, il y a les bénédictions des coupes, etc. Mais il y a aussi l'offrande d'une toute première gerbe. C'est pas la fête de Pentecôte qui ouvre le temps des moissons, mais il y a aussi l'offrande d'une toute première gerbe. À la fête de Pâques, qu'on appelle les prémices. Le Christ constitue les prémices de la résurrection. Alors pareil, c'est la même idée que les arts. Qui dit les prémices, dit d'autres derrière. Et c'est qui les autres? Ben, c'est vous, c'est moi, c'est... voilà. Nous sommes la suite de ceux qui seront ressuscités. Et c'est là où il faut nous étonner. Avec le corps de Jésus ressuscité, il y a quelque chose de nouveau dans l'éternité de Dieu. Voilà ce qui est bon et nouveau. C'est que le Dieu éternel, immuable, trois fois saint, n'est pas enfermé dans sa transcendance. Il y a une ouverture en Dieu. Et qu'il y a quelque chose de nouveau qui est possible dans l'éternité de Dieu. Nouveau et éternel, a priori, ça marche pas bien ensemble. Dans la liturgie catholique, tous les jours, quand on bénit la coupe, en répétant les paroles de Jésus, on dit « la nouvelle et éternelle alliance ». Et il y a quelque chose qui, moi, me stimule ma réflexion, et ma méditation et ma prière. Dieu est comme ça, parce que l'amour est comme ça, à la fois éternel et faisant l'expérience de la nouveauté. Jésus, c'est les prémices de cette nouveauté. Le corps du Christ aura atteint sa pleine dimension, sa pleine stature, quand nous tous, et beaucoup d'autres en plus, j'espère, seront pleinement membres du corps du Christ transfiguré. Alors, le Christ, prémisse de ceux qui sont endormis, et non pas ceux qui sont morts. On change de vocabulaire. On dit pas ceux qui sont... Jésus faisait pareil, d'ailleurs. Si vous vous rappelez, l'épisode de la guérison, ou de la résurrection, d'ailleurs, de la fille de Jaïr. Jésus a été retardé en route, il y avait un autre miracle à faire, et quand il arrive à la maison, on lui dit « la fillette est déjà morte ». Il dit « non, elle n'est pas morte, elle dort ». Alors on pourrait dire « il chipote sur le diagnostic ». Non, 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 elle est morte, au sens où le médecin a le droit de dire qu'elle est morte. Et Jésus dit « ça s'appelle pas la mort, ça s'appelle le sommeil, elle dort ». C'est ça que vient transformer en nous l'espérance de la résurrection. C'est de nous changer notre manière de parler de la mort. C'est un sommeil. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, on nous dit que l'humanité est asservie par le diable, par la peur de la mort. Et bien Jésus nous en libère de cette peur. Il dit la mort, c'est un sommeil. Quand on était petit, enfin, je ne sais pas pour tout le monde, mais ça arrive pour souvent. Il fallait que nos parents nous disent « va dormir pour être en forme demain ». Ah oui, on n'était pas toujours d'accord. Il y a un truc pour lequel certains d'entre nous ont pu ne pas être d'accord, c'est que on avait peur. On avait du mal quand on avait 3, 4, 5 ans à savoir qu'on serait réveillé demain. Ben, c'est moi qui serais debout demain. Alors quand il fallait aller à l'école, ça on avait repéré. On avait réussi à reconstruire ça. Mais c'est une étape dans le développement psychologique de l'enfant, de savoir que demain, c'est lui qui se réveillera. Ben, on est pareil face à la mort. On ne sait pas que demain, c'est nous qui serons réveillés. Alors l'espérance de la résurrection de Jésus, la lumière de la résurrection de Jésus, l'expérience du corps de Jésus transfiguré, c'est cette assurance qui nous est donnée que quand on aura fermé les yeux à la fin de la vie, on sera réveillé au premier jour de l'amour de Dieu pour être en forme. Il faut dormir avant. La mort n'est qu'un sommeil. Je suis pas sûr que je pourrais dire que la mort n'est rien, parce que ça fait toujours un peu mal quand même, beaucoup. Mais la mort n'est qu'un sommeil. Et je crois que la lumière de la résurrection vient nous aider à transformer notre manière de parler de la mort. Et du coup, avec cette lumière-là, Paul reprend l'histoire de la Genèse. Puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Voilà, l'histoire d'Adam et Ève, telle qu'elle nous est racontée au chapitre 2 et 3 de la Genèse. C'est notre histoire à tous. Nous sommes tous, Adam et Ève, ayant du mal à entendre la parole de Dieu, ayant un serpent qui vient pas nous aider du tout à bien la comprendre, et puis nous rentrons dans cette maladie, dans cette jalousie qui nous empêche de croire, et nous avons peur de notre fragilité, nous avons peur de la mort. Alors, Paul interprète cette histoire et dit que c'est pas simplement notre histoire à tous, c'est un fait qui s'est avéré. Alors, dans la théologie catholique, c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler du péché originel. Mais c'est Paul qui, pour comparer Jésus mort et ressuscité, qui est un fait historique, un point dans l'histoire, avec Adam et Ève, eh ben, il interprète ce texte comme étant l'histoire de Monsieur Adam et Madame Ève. un point dans l'histoire, d'où l'expression qu'on emploie souvent, enfin en tout cas dans la tradition catholique, nos premiers parents. Et donc l'histoire d'Adam et Ève devient une histoire qui annonce Jésus, de même que tous meurent en Adam. Voilà, un être humain en hébreu comme en araméen, ça se dit un fils d'Adam. Alors nous sommes tous fils d'Adam et nous faisons tous l'expérience de ce premier homme. Mais l'histoire de ce premier homme, elle appelle l'histoire de Jésus. Alors tous meurent en Adam et tous ressuscitent en Christ. Hein, ce premier point de l'histoire est une prophétie qui appelle la résurrection de Jésus et le salut en Jésus. Alors chacun a son rang, d'abord les prémices. Hein, et le dernier ennemi, alors Paul prend le temps ensuite de décrire vraiment Jésus dans toute sa seigneurie, dans toute sa force. Et il dit, le Seigneur au sens d'un seigneur médiéval avec sa motte de terre, il règne là, voilà, ça lui appartient, c'est à lui. Sauf que là, la motte de terre, c'est l'univers entier quand même. Alors, quand un roi ou un seigneur prend le pouvoir, il y a toujours des poches de résistance, des gens qui sont pas contents. Les puissances, les principautés, les dominations, elles étaient tranquilles, elles faisaient tourner le monde sans Jésus, ça leur convenait très bien. Et donc, il faut réduire les poches de résistance. La résurrection de Jésus, c'est fait, terminé. Il reste un ennemi, il reste une poche de résistance. C'est la mort. On en fait l'expérience. Alors pourquoi, on peut se demander, pourquoi l'avoir laissé? Pourquoi ne pas nous en avoir épargné? Parce que il faut que nous puissions poser un acte de foi, un acte de confiance, comme quoi le don de Dieu a le dernier mot sur notre vie, et non pas la mort, justement. Le Christ, de riche qu'il était, riche en gloire, riche de la proximité de Dieu, riche en vie, s'est fait pauvre, il a connu la mort des fils d'Adam que nous sommes, pour que nous, fils d'Adam, pauvres, fragiles, ayant peur de notre pauvreté, nous puissions avoir accès à la vie. Jésus n'est pas venu pour nous épargner la mort, il est venu pour nous permettre, devant la mort, de poser un acte de foi et d'espérance, et de dire qu'elle est un sommeil, et que par-delà le sommeil, c'est la vie éternelle qui nous est promise. À la fin de ce long chapitre, on va pas tout lire, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Quand donc l'homme aura revêtu l'incorruptibilité, que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Nous sommes amenés à nous affronter à cette expérience de la mort comme un espace où nous allons pouvoir éprouver notre foi en la résurrection de Jésus. Vivre la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui se vit dès maintenant et qui nous met dans la modalité de la promesse. Notre vie est une promesse de vie. Vivre la résurrection de Jésus, c'est vivre un lien de corps à corps avec Jésus. Que ce soit par le lien de sa parole, que ce soit pour les catholiques, peut-être aussi pour les protestants, mais c'est là où on peut discuter avec les sacrements. C'est pouvoir laisser les liens que Jésus veut mettre pour nous transfigurer. Au milieu de ce texte, il y a une expression bizarre. On dira, on sera corps spirituel. Un corps complètement imprégné par l'esprit. Un corps qui sera l'expression même de la transcendance de Dieu. Un corps qui sera en fait comme un arc-en-ciel. La lumière de Dieu, elle est blanche, pure, sainte, limpide. Et Dieu a voulu que cette lumière, elle puisse se faire voir dans toute la richesse de ses rayons, comme le peut le faire l'arc-en-ciel. Chacun d'entre nous, membres du corps du Christ, nous permettrons à cette lumière de porter, enfin, de faire voir un de ces rayons, parce que nous sommes chacun un des rayons de la lumière de Dieu. Alors le projet de Dieu, c'est cela. C'est que sa lumière riche, unique, puisse rayonner sur nos visages dès à présent, mais dès à présent à condition que ce soit pour bien plus tard. Alors je nous invite à laisser en silence un peu pour que la parole de l'Évangile soit promesse.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.